L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Handicap Tribune, une émission qui sera aujourd'hui en différé, car je suis à Toulouse pendant quelques jours là, pour notamment récupérer des interviews pour de prochaines émissions et faire quelques activités avec la médiathèque de Toulouse. Au sommaire aujourd'hui, un nouvel épisode de notre cycle 200 ans du Braille, avec Madame de Roquefeuille, qui est administratrice à l'association Valentin Ahuy, et qui nous parlera du braille musical et de l'édition numérique. Ensuite, nous reviendrons sur le prix qui récompense les audiodescripteurs, le Marius de l'audiodescription, avec 5 personnes qui ont fait partie du jury. Il n'y aura pas d'antenne ouverte aux auditeurs et auditrices, mais il y aura quand même des jeux que vous pourrez faire chez vous, et les réponses seront données dans l'émission. Il y a également quelques chansons qui vont agrémenter cette programmation, mais pas de moment musical, le temps et l'inspiration m'ayant manqué pour en faire un. D'ailleurs, si vous avez des propositions concernant ces temps un peu additionnels de notre émission, elles sont bienvenues, que ce soit pour de la chanson française ou pour d'autres genres de musique. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup à la chanson française, un petit peu au jazz, surtout quand il y a le festival. Mais si d'autres personnes ont envie de partager des playlists avec d'autres genres, pourquoi pas, c'est toujours envisageable. Depuis janvier 2025, nous évoquons le braille à l'occasion des 200 ans de son invention. Cette fois, c'est Madame de Roquefeuille, administratrice de l'association Valentin Ahuy, qui évoque l'adaptation de cette écriture à la musique et aux livres numériques. Et puisqu'on parle musique, j'ai illustré l'interview par un morceau de piano classique avec Gabriel Goroc, une danse roumaine de Béla Bartok. Madame de Roquefeuille, bonjour. Vous êtes de l'association Valentin Ahuy. On va évoquer avec vous une des aspects du braille, notamment le braille musical et l'édition en braille. Mais auparavant, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurence de Roquefeuille. Je suis administratrice de l'association Valentin Ahuy depuis 2019. Et j'ai rejoint l'association en tant que membre bénévole en 2018, à ma retraite. Et moi, ce que je voulais surtout faire, c'est faire progresser le braille numérique et l'accessibilité du web, d'Internet, parce qu'on était très gênés par le manque d'accessibilité des sites, surtout dans le travail, enfin en particulier dans le travail, et que je trouvais qu'il fallait que ça change. Et en fait, on ne fait rien tout seul. S'il faut aller interpeller nos autorités politiques pour leur expliquer qu'il faut que ça change, faire en sorte que la loi évolue, on ne le fait jamais tout seul, on le fait toujours dans le cadre d'une structure. Et donc, je suis rentrée à l'association Valentin Ahuy en particulier pour ça. Et puis, petit à petit, on m'a donné, quand je suis arrivée, on ne m'a pas du tout donné l'accessibilité numérique. On m'a demandé de m'occuper d'éditions adaptées. Et puis, après, quand Sylvain Nivard est arrivé, il m'a demandé aussi de m'occuper du braille. Voilà. Et avant, j'étais statisticienne, j'ai fait toute ma carrière professionnelle à la Caisse nationale d'assurance maladie, donc dans un milieu ordinaire. Je voulais absolument travailler en milieu ordinaire.
Donc le braille, vous vous en êtes servi pendant toute votre carrière professionnelle aussi.
Ah ben c'est, avec l'informatique, c'est impossible de faire autrement, enfin, je trouve, moi. Et ça aide tellement que je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. En plus. Si vous avez déjà tapé des formules sur Excel pour lire une formule un peu longue uniquement avec une synthèse vocale, moi, je vous souhaite bien du plaisir. Ça me paraît très difficile. Et moi, mes collègues, quelquefois, m'envoyaient des formules, c'était sur 4 ou 5 lignes, donc toutes pleines de parenthèses, etc. Avec juste le son, je pense que je n'y serais pas arrivée. Pour faire des programmes informatiques, eh bien, ce qu'on appelle les indentés, c'est-à-dire bien décaler les choses comme il faut, mettre les choses les unes sous les autres, quand on fait des sortes de sous-paragraphes, on décale pour s'y retrouver. Avec le braille, on peut, et surtout on voit qu'on a décalé. Avec la synthèse, on ne le voit pas. Et puis c'est un langage bon, anglais, informatique, enfin, c'est plus agréable à lire en braille, de mon point de vue. Ça permet de travailler en silence. Et puis avec les outils justement numériques, les plages braille, le braille est devenu un moyen de communication entre les aveugles et les voyants. On peut travailler, on peut écrire quelque chose soi-même depuis son terminal braille. Un voyant va le voir sur l'écran de l'ordinateur. Et ce qu'un voyant va écrire sur le clavier de cet ordinateur, moi, je vais pouvoir le lire sur ma plage braille.
Alors ça, c'est l'évolution d'aujourd'hui. On va remonter un peu dans le temps pour justement parler du braille à l'époque de Louis Braille, ou plutôt avant, puisque c'est Braille qui a inventé. Donc, à l'époque où Louis Braille arrive dans l'institution des aveugles, dans les années 1810,
1809.
1809, voilà, qu'est-ce qu'on enseigne aux aveugles à cette époque?
Alors, il y a Valentin Havis, le fondateur de l'Institut royal des jeunes aveugles, national, puis royal, et puis maintenant encore national, l'école qui est encore boulevard des Invalides à Paris. Enfin, Valentin Havis apprenait aux aveugles à lire en relief des lettres comme celles des voyants, ce qui en fait est compliqué et surtout prend beaucoup, beaucoup de place. Bon, ensuite, il y a un militaire qui s'appelle Charles Barbier de la Serre, qui s'intéressait beaucoup aux aveugles et qui a mis au point un mode d'écriture avec des points. Il y avait déjà 12 points, mais c'était un mode d'écriture phonétique. Et puis 12 points en deux colonnes de 6 points, ça ne se lit pas sous le gras du doigt. Il faut déplacer le doigt pour lire un seul signe. Donc vous voyez le temps qu'on pouvait mettre à lire. Mais Braille a été très intéressé par ce mode d'écriture avec des points. Et il a mis au point son système. Les lettres sont basées sur un système de 6 points, hein, alors deux colonnes de 3 points, 3 points à gauche, 3 points à droite, et où on met le point ou on ne le met pas. Hein, et donc, avec ces 6 points, on peut former des 64 caractères, et avec ces 64 caractères, on peut écrire les lettres, les chiffres, les ponctuations, la musique, les maths, la physique, tout ce que vous voulez.
Et dès qu'il a commencé à travailler sur son système, Braille a imaginé justement toutes ces possibilités, musique, mathématiques, ou c'est venu par après?
Non, la musique, c'est lui qui a conçu le braille musical. Il était lui-même pianiste et organiste, très très doué, hein.
À l'époque, la musique pour les voyants, donc on travaille sur des portées. Pour les aveugles, à l'époque, on faisait comment?
Ben, on ne faisait pas trop, en fait,
Du par cœur?
ils apprenaient par cœur. Je ne suis pas très calée dans ce domaine, mais il n'y avait pas d'écriture pour eux, justement. Et donc, c'est Braille qui a inventé le système d'écriture musicale qu'on utilise encore aujourd'hui, même s'il a évolué pour la musique contemporaine, pour même les chansons. C'est-à-dire quand vous vous accompagnez avec des accords, le système de notation des accords est un peu différent du système que Louis Braille a inventé pour la musique. Il avait fait un système pour la musique classique, on va dire, hein. Voilà, et c'est normal que le braille évolue, comme le braille mathématique a aussi évolué, hein. Mais il avait tout inventé, les chiffres, les lettres, les ponctuations, la musique.
Et donc, maintenant que le braille est informatique, on fait davantage, on édite plus de braille qu'avant, parce qu'à une époque, les bibliothèques recrutaient des bénévoles pour taper à la tablette et au poinçon les livres caractère par caractère. C'était évidemment fastidieux. On en est où maintenant?
Alors, bon, pour les livres, on a des livres en braille numérique. Il y en a dans notre bibliothèque, dans la bibliothèque de l'association Valentin Avil, notre médiathèque, on peut les télécharger. Comme le braille prend quand même beaucoup de place, pour vous donner une idée, un seul volume d'Harry Potter en braille, ça fait 15 gros volumes, gros comme un dictionnaire chacun.
Oui, ça
Vous
fait
voyez?
facilement deux étagères de bibliothèque.
Voilà. Donc, les livres en braille numérique tiennent beaucoup moins de place, ce sont des fichiers. Pour la musique, maintenant, tout est informatisé, hein, mais en général, les musiciens aiment bien avoir leurs partitions sur papier parce que c'est le système, on écrit ça, on découpe un morceau en phrases musicales. Par exemple, pour le piano, il va y avoir la phrase à la main droite et ensuite la phrase à la main gauche. Les choses ne peuvent pas s'écrire l'une en dessous de l'autre, comme c'est le cas pour les voyants, où on a un système avec des portées. Il y a la main droite en dessus, la main gauche en dessous. Nous, c'est la main droite d'abord et la main gauche après, par exemple. Et à l'orgue, c'est la main droite d'abord, la main gauche ensuite et la pédale ensuite. Donc, on fait des phrases relativement courtes pour que les gens puissent se repérer, mais pour qu'on puisse facilement aller d'une phrase à l'autre, d'une main à l'autre ou à la pédale, les musiciens aveugles préfèrent généralement consulter leurs partitions sur papier. Mais on peut aussi les consulter en braille numérique. Et d'ailleurs, il y a des bibliothèques qui proposent, c'est à l'étranger, mais qui proposent des partitions en braille numérique.
On estime à combien de personnes qui connaissent encore le braille? Est-ce que ça devient finalement une écriture qui n'a plus trop sa place ou est-ce que c'est encore bien implanté?
Le braille n'a jamais eu autant d'intérêt avec le braille numérique. Le fait qu'on peut lire des livres en braille sur une plage braille, un bloc-notes braille en silence, au lieu de le lire avec une synthèse vocale, par exemple, ou avec même une voix humaine. Donc, si vous voulez le lire en braille sur une plage braille, vous pouvez très bien, par exemple, brancher votre plage braille sur votre téléphone. Et si votre application de lecture est sur votre téléphone, vous allez pouvoir lire votre livre avec votre plage braille en silence la nuit pour ne pas déranger votre conjoint ou vos enfants, ou par plaisir parce que vous aimez lire en silence, parce que c'est quand même reposant. On a 20 000 livres en braille à l'association Valentin et Huyghues, dont à peu près 10 000 en numérique. Et puis pour le travail, c'est incomparable le numérique. Enfin, le braille n'a jamais eu autant d'avenir et c'est malheureux qu'on soit obligé de se battre comme on est obligé de le faire pour le faire passer à nos autorités politiques qui pensent qu'avec une synthèse vocale, on fait tout. Eh bien, avec une synthèse vocale, on ne fait pas tout. Vous travaillez en binôme avec un voyant sur un ordinateur et vous laissez la synthèse vocale, il va vous dire, arrête, je ne supporte pas.
C'est clair.
Hein? En braille, ben, vous éteignez la synthèse et puis vous touchez votre plage braille et puis vous travaillez.
Pourtant, il est assez peu enseigné maintenant, si, ou alors ça s'est un peu.
Malheureusement, mais on se bat pour qu'il le soit, parce qu'un enfant, quand il est aveugle ou très malvoyant, il faut qu'il ait déjà, mais ne serait-ce que la représentation mentale d'une lettre, d'un paragraphe, d'une ligne, d'une page, d'un titre dans une page, d'un saut de page, d'un saut de ligne, de chapitre, pour avoir quand même déjà quelque chose de commun avec les voyants. Quand vous allez travailler avec les voyants et que vous devez rédiger, enfin, si on vous a jamais appris quelque part, il y a des moments où il faut sauter une ligne, où il faut changer de paragraphe, où il faut éventuellement changer de page, où, je sais pas, il faut mettre en gras. Comment vous allez faire? La majorité de la population est voyante. Si on veut travailler avec les voyants, comment on fait si on ne sait pas tout ça? Des choses qui sont vraiment basiques, fondamentales. Et je pense que le braille doit s'apprendre au départ avec du papier. Et après, enfin, d'ailleurs, même en même temps, enfin, simultanément, ça peut se faire, qu'ils apprennent le braille numérique parce que c'est tellement riche, ça nous donne accès à tellement de choses. Le braille vous donne beaucoup d'autonomie, en fait. Le braille, c'est un facteur d'intégration, c'est pas du tout un facteur d'exclusion.
Une autre danse roumaine de Béla Bartok que celle qui ouvrait l'interview, sous les doigts de Gabriel Goroc, qui est un pianiste franco-italien. Et puisque Madame de Roquefeuille parlait de la médiathèque de Valentin Ahuy, eh bien, je vais donner le site de l'association, en tout cas, www.avh.asso.fr, où vous pouvez trouver le catalogue de la médiathèque. Donc des livres numériques, mais pas que, puisqu'il y a aussi des livres audio avec des voix humaines ou des voix de synthèse, et puis par ailleurs toutes les autres activités que fait l'association Valentin Huy, avec notamment les comités de province et la boutique. Vous êtes sur Radio Galère et c'est Handicap Tribune et nous poursuivons avec le premier jeu musical, Parole, Parole. Il s'agit de retrouver une chanson à partir de quelques paroles prononcées par une voix de synthèse. On ne peut pas jouer par téléphone aujourd'hui, mais cela ne vous empêche pas de chercher chez vous. Et je vous donnerai la réponse après la pause musicale. Mais dans un premier temps, on va écouter l'indice.
Il y a des gens gays et des sergents. Et dans tout ça, nous deux.
Une pause donc avant de donner la réponse avec Georges Brassens, la flûte et le trombone.
Une charmante petite flûte se promenait dans les bois et faisait mille culbutes en chantant à pleine voix. La 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 la. Mais dans un coin, un trombone, en train de pêcher le goujon, aperçut la mignonne et il tombe en pamoison. Il lui dit, ma petite flûte, je vous aime comme un fou. Elle lui répondit, zut, je suis bien trop belle pour vous, vilain. Mais de sa voix magnifique, il lui dit tout son amour. Très émue par sa musique, elle l'aima à son tour. Puis devant monsieur le maire, ils allèrent prestement. Elle au bras de son vieux père, lui au bras de sa maman. Le maire dit, mademoiselle, en voulez-vous pour mari? Et vous, monsieur, cette belle, l'accepterez-vous aussi? Et d'une voix solennelle, tous deux ont répondu oui.
Il y a une suite, ils eurent sans doute beaucoup d'enfants, etc., etc. Mais je la sais pas.
Connaissiez-vous cette chanson? Moi, pas. Je l'ai découverte par hasard dans ma discothèque en recherchant autre chose. La chanson est extraite d'un disque d'entretien du chanteur, apparemment des extraits d'émissions qu'il avait fait avec Europe 1. Et voilà la réponse au jeu.
Il y a des gens gays et des sergents, et dans tout ça, nous deux.
Il s'agissait donc de retrouver la chanson de Christophe Maé, Les gens. Vous vous demandez peut-être comment je produis les extraits en voix de synthèse. C'est avec un petit logiciel qui s'appelle Balabolka et qui permet très simplement de convertir un document texte en fichier audio MP3 et on peut choisir différentes voix de synthèse pour le lire. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres logiciels qui sont capables de faire ça, notamment les logiciels de reconnaissance optique de caractère, de type OpenBook ou OmniPage ou FindReader. Il était question de trombone dans la chanson de Georges Brassens qu'on vient d'entendre. Il en était aussi question dans En fanfare, l'un des cinq films qui était proposé au jury du Marius de l'audiodescription. Ce prix, qui en est à sa 8e édition, se base sur les films qui sont en compétition pour le César du meilleur film et il récompense la meilleure audiodescription. Le prix est soutenu par la CFPSAA, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, qui regroupe un bon nombre des associations qui travaillent avec les personnes handicapées visuelles. Il y avait plus de 250 jurés cette année, pour la plupart handicapés visuels, et la plupart sont des femmes et majoritairement des non-voyants. Il y a 5 jurés qui sont pris rendez-vous avec moi pour parler de cette édition qu'on va entendre bientôt. Et il y a aussi dans ce jury un petit pourcentage de personnes voyantes. Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à Handicap Tribune. Avant que l'on commence l'interview, pouvez-vous vous présenter en quelques mots aux auditeurs et auditrices?
Je suis donc Elisabeth Mesper, j'habite en Gironde, je suis professeure de français en collège, j'ai 45 ans et je suis aveugle de naissance.
Je m'appelle Marie, j'ai bientôt 52 ans, Je suis non-voyante, pas tout à fait de naissance. Je suis née malvoyante et je vois plus du tout depuis l'âge de 35 ans. J'exerce le métier de kiné et j'habite dans la Drôme, un petit peu en campagne, petite ville où on a un cinéma et où ils font en sorte de nous proposer l'audiodescription sur les films en français. Donc je retourne au cinéma depuis un petit moment et c'est chouette.
Je m'appelle Annie, j'ai 46 ans. Je suis mariée, j'ai un fils de 9 ans, j'ai également un chien guide. Je suis enseignante spécialisée auprès de jeunes de 3 à 20 ans qui sont eux-mêmes déficients visuels.
Je suis Océanie Cravero, j'ai 31 ans, j'habite à Besançon dans l'est de la France en Franche-Comté. Je suis non-voyante et malentendante atteinte du syndrome d'Astrom. Et j'ai donc un chien guide qui s'appelle Miel, c'est mon deuxième chien guide et je suis musicienne et je pratique le clavecin notamment et le chant.
Je suis Géraldine, je suis intervenante cinéma spécialisée dans la responsabilité sociétale et environnementale. J'ai un podcast qui s'appelle Handicap et cinéma que je viens de lancer et je suis absolument voyante. Voilà. Et je suis aussi famille d'accueil pour l'association Handichien qui prééduque je prééduque des chiens d'assistance pour les personnes handicapées.
Comment avez-vous eu connaissance du Marius et quelles ont été vos motivations pour devenir juré?
J'étais sur le forum de discussion sur lequel Sylvie Ganche a proposé l'idée. J'ai suivi depuis le début, depuis 2018. Je trouvais ça très intéressant et je me disais que ça pouvait promouvoir l'audiodescription, justement, et qu'on pouvait en parler davantage grâce à cette histoire de Marius.
Moi, j'ai eu connaissance du Marius l'année dernière. C'est ma deuxième fois, là, en 2025, que je participais au Marius. C'est une amie à moi non-voyante qui m'avait envoyé un mail qui le faisait elle, depuis longtemps. Bah, en fait, ça m'a intéressée parce que ça fait longtemps que j'écoute les films en audiodescription, pas mal maintenant avec mon téléphone sur Arte, par exemple, des choses comme ça. Et donc, d'aller écouter les films des Césars et puis pouvoir, essayer de vraiment comprendre comment est fabriquée l'audiodescription, comment la faire connaître, la faire s'améliorer, je trouvais ça intéressant, quoi.
Par le biais de listes de discussion sur le net. C'était la troisième cette année. Les motivations, déjà l'importance que ça a pour moi d'avoir accès à des films qui sont audio-décrits. Je regarde la télé de temps en temps. De temps en temps, c'est mon mari ou mon fils qui me décrivent les films quand c'est pas audio-décrit. Après, c'est vrai que le fait que ce soit audio-décrit, ça amène quand même déjà plus de précision. C'est quand même aussi moins contraignant pour la famille. Et puis, j'ai bien aimé déjà pouvoir échanger avec des gens qui font partie des écritures des films, pouvoir avoir leur retour, connaître un petit peu leurs difficultés, leur façon de fonctionner.
C'est la responsable culturelle qui organise des sorties de l'AVH Besançon Doubs qui m'en a parlé. Du coup, c'est comme ça que j'y ai participé en 2023. Je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir ces films, de découvrir l'audiodescription et de pouvoir l'évaluer et qu'ensuite il y ait une vraie remise de prix pour valoriser ces métiers-là.
Quand je suis devenue famille d'accueil pour Handichien, ma fille aînée m'a dit « Moi, je voudrais bien devenir aussi famille d'accueil, mais pour les chiens guides. » Elle était à Lille, au centre, à côté du centre Paul Corteville. Donc, elle est devenue famille d'accueil à Lille et elle est devenue ensuite élève moniteur canin. Et du coup, ça m'a rapprochée de l'ANM, Chien Guide, l'Association nationale des maîtres de chiens guides. Et c'est une des personnes de l'ANM qui connaissait mon intérêt pour le cinéma et qui m'a dit « Ça va te plaire, inscris-toi. » Donc, je me suis inscrite. On m'a d'abord dit qu'il y avait trop de personnes voyantes et donc j'ai appelé mes copains non-voyants en leur disant « Inscrivez-vous, comme ça le quota sera bon. » Et ensuite, on m'a répondu que c'était OK, que je pouvais participer à l'aventure.
Il y avait donc 5 films à départager, Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, En fanfare, L'histoire de Suleiman et Miséricorde. Avez-vous vu certains de ces films en salle? Comment avez-vous organisé votre travail de juré?
Alors, j'en ai vu aucun en salle, donc je les ai écoutés quand on nous les a fournis, quand ils nous ont fourni les bandes-son. Donc, ce que je fais, en fait, je les écoute une seule fois. Il arrive que je revienne un petit peu en arrière, 30 secondes, pour « Ah, elle a dit ça, comme ça, bon, voilà. » Et je prends des notes pendant que j'écoute. Alors après, bien sûr, je relis mes notes, j'ajuste ma note sur 10. Au début, c'était sur 5, mais maintenant, c'est sur 10. Et puis voilà.
J'ai écouté les 5 films chez moi une fois qu'on me les a envoyés là pour le Marius. J'avais été voir l'histoire de Souliman. Les autres, je ne les connaissais pas. Et autant l'année dernière, pour la première fois, j'avais utilisé la grille d'évaluation en mettant une note à chaque item de la grille d'évaluation et après en faisant une moyenne. Et ça m'avait pris beaucoup d'énergie et moi, je ne m'étais pas fait vraiment plaisir à écouter les films tellement j'étais concentrée pour essayer de répondre aux questions des items d'évaluation. Et donc cette année, je n'ai pas utilisé la grille et je me suis plus fiée à mes besoins et à la façon dans laquelle j'avais vécu le film, j'avais vécu l'audiodescription, comment je l'avais ressenti. Donc j'ai plus mis une note comme ça et je me suis vraiment fait plaisir cette année à écouter les films du Marius.
Alors, j'ai vu aucun film en salle, alors j'y vais très très rarement au cinéma. J'y connaissais pas du tout, donc j'ai écouté complètement de manière aléatoire les uns après les autres. J'ai pris quelques petites notes, mais ça a surtout été sur ce que je pouvais ressentir sur le moment. C'est-à-dire, est-ce que je pouvais vraiment bien rentrer dans le film? Est-ce que j'ai bien entendu l'audio-description? Est-ce qu'il a fallu que franchement, je fasse attention ou pas à ce qui était dit, ou est-ce que ça couvrait le dialogue. Ça a vraiment été mes points principaux. Après, la difficulté, c'est d'arriver à vraiment juger que l'audiodescription, pas faire rentrer en ligne de compte notre appréciation du film en lui-même, c'est-à-dire... si moi j'ai pas aimé un film, c'est compliqué d'arriver à dire bon bah je n'ai pas aimé ce film, mais ça n'a rien à voir avec l'audiodescription.
Alors non, je n'avais pas du tout vu en salle. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps. En plus, nous à Besançon, on était en vacances qu'au 21 février et il fallait voter jusqu'au 20 février. Donc c'est vrai que par manque de temps, j'ai pas forcément réécouté les films, mais en tout cas, il y en a deux que j'ai écoutés en entier, et les autres, j'ai pas forcément écouté en entier, mais juste assez pour savoir si j'étais vraiment immergée dans le film ou non.
J'ai écouté tous les films au casque, sur mon canapé, parfois assise, parfois même couchée, les yeux fermés, pour me laisser porter. J'avais vu En fanfare en salle. C'est le seul film que j'avais vu. Et pour les autres, coup de bol, parce que vraiment, c'est un hasard, mais c'est bien tombé. Je n'avais pas vu les bandes-annonces en dehors d'Emilia Pérez. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment fait l'expérience avec, à part les affiches, mais quasiment aucune image. Et encore, pour Miséricorde, je n'avais même pas vu l'affiche. Donc, voilà, je n'avais pas d'image mentale et j'ai trouvé ça très chouette de jouer le jeu de cette façon très immersive. Et d'être finalement dans la peau d'une personne non-voyante et de vivre cette expérience-là sans aucun visuel.
Qu'avez-vous pensé de la qualité de l'audiodescription ? S'est-elle améliorée au fur et à mesure de vos participations ?
Je pense que c'était de bonnes audiodescriptions pour moi, sauf une qui m'a beaucoup fait souffrir pendant que je l'ai écoutée. Mais de toute façon, le trio de tête, les trois audiodescriptrices, j'ai déjà entendu certaines de leurs audiodescriptions assez souvent. C'est quand même des vieilles routardes, elles ont de la bouteille. Et pour moi, ce sont de très bonnes audiodescriptrices. Donc cette année, il y avait de la qualité, mais c'est dû, je pense, au fait que ces personnes-là sont de bonnes audiodescriptrices.
Bon, entre l'année dernière et cette année, je ne peux pas dire qu'il y a une grosse amélioration, mais elles sont très très bonnes, mais elles étaient déjà très très bonnes l'année dernière aussi. J'ai eu du mal à les différencier. Comme j'ai fait que 2 ans, je ne peux pas trop me prononcer sur l'amélioration de la qualité, mais ça fait longtemps que j'écoute des films chez moi, et ouais, je les trouve très très bonnes. Et, J'ai adoré, par exemple, Le Comte de Monte Cristo, mais j'ai adoré grâce à l'audiodescription. Et l'audiodescription, complètement oubliée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle a, pour moi, elle faisait partie du film. Et moi, l'audiodescription me dérange. Enfin, moi je l'oublie, en fait. C'est comme si, je ne sais pas, quand elle est vraiment parfaite, c'est comme si c'est mes yeux qui voyaient directement ce qu'elle explique. Et je ne fais plus qu'à cette audiodescription. Je suis vraiment dans le film. Et là, je l'ai vraiment vécu avec Le Comte de Monte Cristo. Je crois que c'est une des premières fois que ça me faisait ça.
Et là, cette année, moi, j'ai eu vraiment des notes qui étaient bonnes. La première fois, c'était... J'avais vraiment eu un coup de cœur pour une description pour un film. Et les autres étaient, à mon sens, c'était moins bien. Et là, cette année, ça a été très compliqué pour moi de les départager. Donc, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Ce qui a joué là, cette année, ça a été le fait de bien entendre l'audiodescription. Il y a une ou deux fois où j'ai été gênée, où il a fallu que je revienne en arrière, où vraiment je me suis sentie, enfin, il fallait vraiment que je me concentre pour l'entendre. Donc là, ça, c'est ce qui a fait que certains films aient une moins bonne note, mais ils ont tous, pour moi en tout cas, je les ai tous mis entre 8 et 9. Donc c'était vraiment, vraiment bien.
Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Vraiment, on avait des audiodescriptions qui étaient très bonnes, enfin de bonne qualité en tout cas, qui nous permettaient vraiment de nous immerger dans le film. Et ce qui s'est aussi amélioré, c'est le fait de nommer les collaborateurs déficients visuels dans le générique, parce que c'est quand même des membres indispensables aussi pour relire l'audiodescription. Et donc ça, c'est vrai que c'est intéressant qu'ils soient nommés aussi dans le générique. Et oui, moi, je trouve que ça s'améliore de plus en plus, même au niveau du le vocabulaire utilisé est aussi beaucoup plus précis.
Globalement, j'ai trouvé ça super bon. J'ai trouvé que voilà, les voix étaient effectivement très neutres, bien prononcées, que le son n'était pas coupé par... ça ne venait pas se surajouter au son du film, en fait. Donc, ça n'empêchait pas l'écoute du film. Après, il y a deux, trois petites choses qui m'ont un peu gênée. Par exemple, la répétition des prénoms ou du nom du personnage. Voilà, sur Suleiman en particulier. Ça m'a un peu agacée, le fait qu'on répète « Suleiman fait ceci, Suleiman ça ». Et après, j'ai eu une gêne sur Emilia Pérez, parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude, je suis intervenante cinéma depuis, je travaille dans des réseaux de salles de cinéma réessai depuis longtemps, donc j'ai pris une habitude de découvrir les films en version originale. Et du coup, forcément, l'audiodescription, elle est faite sur la base de la version française du film. Sauf que moi, je me suis vraiment très déshabituée aux versions françaises. Et pour moi, c'est compliqué d'écouter une version française. J'y perds trop en termes de qualité d'interprétation, de grain de voix du comédien. Enfin voilà, pour moi, je ne retrouve pas le film et ça me fait sortir de l'univers. Donc, l'audiodescription qui a été la plus difficile à apprécier pour moi, c'était celle d'Emilia Pérez. Couplé au fait que visuellement, alors j'ai pas encore vu le film, mais j'ai très envie de le voir maintenant. Mais visuellement, voilà, il y a plein de scènes pour lesquelles j'imagine que c'est très compliqué de faire une audiodescription des passages dansés.
C'était donc la première partie de l'interview concernant le Marius de l'audiodescription, avec Elisabeth, Géraldine, Marie, Océanie et Anne-Lise. Et avant de passer à la suite, nous allons à nouveau jouer avec le jeu du pont. Un pont, c'est une partie instrumentale qui s'insère dans une chanson et qui fait une sorte de transition. Ici, il s'agit de reconnaître une chanson française des années 80, plutôt connue, je pense. Pause pour vous donner le temps de chercher, bien qu'il n'y ait pas d'antenne ouverte aux auditeurs ce soir, puisque l'émission est en différé, et je vous donne la réponse après.
Un soir, les voyous de Marseille m'ont fait goûter à leur bouteille au fond d'un bistrot mal famé où j'attendais de m'embarquer. Ils me parlaient tous de voyage, je faisais déjà mes bagages. Ils m'ont saoulé de tant de bruit que je ne suis jamais partie. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vais voir devant les agences les noms des bateaux en partance. C'est fou, je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main. Adieu les amours en gondole, les nuits de Chine, les acropoles. La terre de France à mes souliers, c'est comme des fers bien verrouillés. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vends mon histoire aux touristes, on fait des sous quand on est triste. Les escudos et les dollars, y a rien de meilleur pour le cafard. Et puis j'ai toujours dans ma poche un vieux billet qui s'effiloche. C'est tout mon rêve abandonné, je n'ose pas le déchirer. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port.
Colette Renard, tais-toi Marseille. Association d'idées pour trouver cette pause. La chanson parle de voilier, ce qui fait un petit clin d'œil à Marius, celui de Marcel Pagnol cette fois, qui s'embarque sur la Malaisie en délaissant son amie Fanny. Pour revenir à notre jeu, voilà la réponse.
Soyez pas trop jaloux, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le blues.
C'est donc une chanson de Patricia Cass qu'il fallait trouver. Mademoiselle chante le blues. Revenons au Marius de l'audiodescription maintenant avec la deuxième partie de notre interview. Le choix entre les films a-t-il été facile ?
Ça a été difficile jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, tu t'en fiches qu'ils soient à égalité ou pas. Ce qui compte, c'est que tu les notes en toute objectivité. Donc au départ, c'était un peu difficile parce que j'avais la même note pour deux films. Pour deux audiodescriptions, pardon, pour celle du Comte de Monte Cristo et celle de l'histoire de Souleymane. Elles avaient 10 pour moi. Et je me dis, mais c'est pas grave en fait.
Presque un peu plus facile que l'année dernière, où l'année dernière j'avais utilisé la grille et j'avais des 8,3, 8,2. Là, j'ai vraiment adoré l'audiodescription et donc le Comte de Monte Cristo, j'ai vraiment passé un bon moment. Alors que pour un des autres, l'audiodescription m'avait vraiment un peu énervée, un peu dérangée, et donc là, ben voilà, la note, elle a été plus facile à la mettre moins bonne. Après les trois du milieu, j'ai eu un peu plus de, ça se valait un petit peu plus, quoi. Mais ouais, j'ai eu plus de facilité à noter cette année.
C'est compliqué parce que vu que j'ai mis 3, 9 et 8, et 2, 8, pardon, les 9, je les ai mis en fanfare, le Comte de Monte Cristo et Emilia Pérez. Emilia Pérez, c'est une nouvelle description qui a sans doute dû donner beaucoup plus de difficultés de fil à retordre que d'autres, parce qu'il y avait déjà le fait de traduire ce qui est sous-titrage, Il y avait des chansons. Et ça aussi, c'était compliqué pour nous de pouvoir se dire, bon, bah, je vais noter, mais est-ce que il faut favoriser les films pour lesquels il y a quand même une complexité qui est plus importante, ou est-ce qu'on ne juge pas du tout?
Comme les audiodescriptions étaient de bonne qualité, c'était difficile de mettre en dessous de 7 ou 8. Mais par contre, je pense que la présence du collaborateur déficient visuel, en tout cas, a changé quelque chose pour moi dans la compréhension du film. Par exemple, sur Enfant Phare, où il s'agissait quand même beaucoup de direction d'orchestre, et c'est des choses que nous, en fait, on ne voit pas, même quand on écoute de la musique. Et du coup, je trouvais que vraiment la présence du collaborateur déficient visuel, à mon avis, a permis que les gestes soient décrits avec une précision qui fait qu'on était vraiment immergé dans le film et que sans ça, on n'aurait pas compris l'intérêt du film. Et ouais, je pense que le fait qu'il y ait des collaborateurs déficients visuels, ça change. Et en plus, bah, les trois films qui ont été récompensés au Marius avaient des collaborateurs déficients visuels. Donc je ne pense que ce n'est pas un hasard et que vraiment, ça permet quand même que l'audiodescription soit la meilleure possible.
Ben, c'était plutôt compliqué parce qu'en fait, les scores étaient serrés. Je crois que j'étais entre 7 et 9. Et encore, je me suis dit, il y a sans doute moyen que ça s'améliore encore. Donc, je n'ai pas mis 10, mais je trouve qu'il y a vraiment, il y avait vraiment une belle qualité, qu'on rentrait bien dans l'histoire. Après, j'ai eu une petite difficulté, mais je pense que c'est une difficulté de voyante. C'est-à-dire que les images, pour nous, nous portent quand même dans l'univers du film. Et de temps en temps, j'ai senti que ma concentration se détachait, en fait, de l'audiodescription. Donc parfois, j'ai dû écouter les films en deux temps, en disant, bon, là, je sens bien que je me perds, j'y suis plus. Mais je pense que ce n'est pas lié à l'audiodescription, je pense que c'est lié au fait que je suis habituée à me raccrocher à des images pour rester dans l'univers du film et que là, bah, du coup, le cerveau, il partait dans des pensées. Bon, c'est le but du cinéma aussi, hein, et ça m'arrive aussi en salle parfois de louper un morceau du film parce que mes pensées m'emmènent par rapport à une image, un son, quelque chose qui m'a marqué dans le film. Voilà, ça me ramène ailleurs et du coup, je perds un peu ma concentration.
Le Marius, finalement, a été décerné au film Le Comte de Monte Cristo. Audiodescription écrite par Meryl Guyard avec la collaboration de Wissa Houyed pour le laboratoire Transperfect Media France. Ensuite viennent Enfant Phare et l'histoire de Souleymane. Aviez-vous fait les mêmes choix?
Alors oui, ça c'est drôle, c'est mon trio de tête, sauf que le 2 et le 3 sont inversés. Par contre, si vous parlez du 5, des 5, non, moi le 4, je le mettais en 5, très très loin derrière les autres, c'est-à-dire Emilia Pérez, et je mettais c'était Miséricorde, en 4, Emilia Pérez. Alors déjà, je trouvais que c'était pas très bien mixé. C'est-à-dire qu'il y avait sous-titres, voix du film et voix de l'audiodescripteur, du comédien. C'était pas l'audiodescriptrice qui lisait. Et donc les trois voix étaient pas au même niveau. Déjà, c'était un peu dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai trouvé, apparemment il n'y a que moi, que le comédien qui lisait l'audiodescription avait une voix robotique. J'étais persuadée que c'était une voix de synthèse. Et qu'ils avaient inventé un prénom et un nom aux comédiens. Je suis une horrible personne, je sais. Donc quand j'ai fini de regarder le film, j'ai cherché le comédien sur Internet.
Pas tout à fait. Le premier, oui. Donc Le Comte de Monte Cristo. Et après, je ne me rappelle plus, ça a été Enfant Phare et l'histoire de Souleymane. Voilà. Bah, moi, l'histoire de Souleymane, je l'avais mis en second. Donc voilà, il était troisième. Donc oui, quand même 2 sur 3 quasiment. Et j'avais mis Emilia Pérez en troisième. Enfant Phare, j'avais été un peu embêtée par les volumes sonores. Des fois, je n'entendais pas trop l'audio, donc je voulais recommencer. Donc je ne l'avais pas mis dans les trois premiers. Ce qui m'a juste moi été un peu difficile, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, si je les avais vus déjà au cinéma. Donc j'avais vu l'histoire de Souleymane et ça a été plus dur de les réécouter. J'étais moins motivée parce que je l'avais déjà vu au cinéma. Et j'ai eu plus de mal à l'évaluer parce que comme je connaissais l'histoire, j'avais du mal à me dire est-ce que c'est l'audiodescription qui me permet de le comprendre ou c'est parce que je l'ai déjà vu. Donc en fait, de l'avoir déjà vu au cinéma, ça a plutôt été une gêne qu'un avantage et j'ai failli pas le noter d'ailleurs parce que j'avais du mal à être objective.
C'est juste qu'Emily Interest, je crois, qui n'était pas dans le trio, mais autrement, ça correspondait quand même à peu près à ce que j'avais ressenti.
Non, pas tout à fait. Alors, c'est vrai que j'avais en fanfare plutôt en première position qu'en deuxième. Mais après, j'avais plutôt sélectionné Miséricorde et Emilia Pérez, même si j'avais apprécié les deux autres. Mais c'est vrai que le seul des trois était plutôt en fanfare.
Clairement, Monte Cristo, c'est celui dont j'avais plus envie de le voir après cette expérience-là. Et Suleiman, j'ai adoré ce film. Il me parle énormément et j'étais presque tentée de monter l'audiodescription parce que je trouve que c'est un film qui a besoin d'être porté à l'écran et qui a des valeurs qui me parlent beaucoup. Mais voilà, j'étais un peu gênée par la qualité de l'audiodescription. J'ai préféré celle du Comte de Monte Cristo. Mais effectivement, c'était à peu près ça. Hein. Je suis restée sur la même analyse aussi.
Les jurés du Marius de l'audiodescription, qu'ils soient voyants ou non, n'ont à leur disposition que la version audio des films, donc la bande-son du film plus l'audiodescription. Il n'y a donc pas possibilité d'évaluer le rapport adéquat ou pas entre les images, donc la manière dont le réalisateur montre son film, et les mots par lesquels l'audiodescription transmet ses images. Cela pose-t-il un problème pour vous ?
Ah, pour moi, c'est pas un problème, mais ça peut en être un, dans l'absolu, je veux dire. On n'a pas le moyen de vérifier. Alors, moi, c'est pas grave pour moi, mais on n'a pas le moyen de vérifier si l'audiodescripteur se trompe pas, ou s'il y a des choses qu'il oublie, ou s'il y a des... Enfin, voilà.
J'ai vu ça, moi, dans un petit peu les discussions, et personnellement, moi, ça me pose pas de soucis. Moi, ce que je veux, c'est passer un bon moment, c'est être imprégné par le film, les émotions du film, et s'il manque quelques détails ou ils sont pas complètement collés au film, ça me dérange pas.
Poser un problème en ces termes, je sais pas. De toute façon, qu'il y ait ou pas des personnes voyantes, quand moi je profite d'un film audio décrit, forcément, je peux pas voir s'il va manquer des choses ou j'aurais, moi, à leur place, décrit autre chose. Alors, on peut savoir s'il nous manque des choses, si on ressent le besoin à l'écoute. Il y a des moments où on se dit, mince, là, qu'est-ce qui se passe ? Ou, ça c'était inutile. Voilà, ça peut en effet être notre retour. Après, c'est difficile de juger. Le fait d'avoir un retour de personnes voyantes, moi je pense que c'est toujours bénéfique. Il faudrait qu'on puisse peut-être regarder le film en même temps qu'une personne voyante pour avoir aussi ce retour-là. Je sais pas.
Je pense que c'est vraiment bien qu'il n'y ait que l'audio parce qu'on est tous à égalité. Et du coup, ça permet aussi aux personnes un petit peu voyantes de se plonger dans notre univers et du coup de s'imaginer comment nous, on perçoit le film juste avec l'audio et l'audiodescription. Et donc je pense que non, il n'est pas nécessaire d'avoir les images pour comprendre un film avec l'audiodescription. J'ai d'ailleurs en exemple ma maman qui est voyante et qui adore l'audiodescription, justement.
Pour moi, c'est une bonne chose parce que au-delà du prix, alors moi je suis quelqu'un qui valorise pas trop la performance, les concours, les compétitions, etc. Je préfère quand on est dans la coopération que dans la compétition. Donc j'y accorde assez peu d'importance. En revanche, je trouve que l'expérience permet de se mettre à la place de vivre vraiment l'expérience des personnes déficientes visuelles. Et ça nous rapproche, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'importe, c'est d'avoir découvert quelque chose que je connais pas, que j'ai partagé d'ailleurs avec plein d'autres personnes après cette expérience. Et voilà, de se mettre à la place d'eux pour comprendre quelles sont les attentes des personnes non-voyantes quand elles vont en salle. Ça me paraît beaucoup plus intéressant que de savoir que c'est tel film qui a été meilleur. Et ce qui est important, c'est surtout de développer l'audiodescription, de la rendre visible parce qu'il y a encore plein de gens qui ne la connaissent pas. Et j'ai compris aussi que même chez les personnes non-voyantes, il y a des gens qui ne connaissent pas cette possibilité-là au cinéma notamment. C'est sûr que quand on regarde les images, on peut s'apercevoir qu'il manque des informations et qu'elles peuvent être plus ou moins importantes. Et voilà. Après, c'est vraiment pour moi, c'est aussi une œuvre. C'est une œuvre en soi. C'est une œuvre artistique avec des choix artistiques où on va décider de décrire cette chose-là et pas cette autre chose-là, parce que si il y a un timing à prendre en compte et que parfois il y a des choses qui peuvent passer à la trappe. Simplement parce que la bande sonore du film d'origine ne laisse pas cette place-là. Donc voilà, je crois que ce qui est important, c'est surtout de permettre l'accès à des œuvres artistiques à tous et de permettre à tous de les partager ensemble. L'image importe, bien sûr, mais pour Enfant Phare, voilà, j'avais vu le film, mais j'ai rien vu qui manquait spécifiquement en me disant oh, « bah tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas évoqué ça ». Il n'y a rien qui m'est sauté aux yeux de ce côté-là.
Serait-il souhaitable que le Marius devienne un César, comme par exemple celui des meilleurs décors ou de la meilleure musique originale ?
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, il y aurait une reconnaissance officielle, en fait. Mais ensuite, justement, le problème que vous évoquiez, rapport image-son, bah, n'existerait plus, puisque les films seraient évalués, je pense, au niveau image et son. Ça aurait une autre dimension. Moi, ce qui me décevrait un peu, bah, c'est que, de ce fait, nous ne serions plus jurés. Ce serait un peu triste, ce serait des professionnels, je pense. Je pense quand même qu'il faudra un mix des deux.
Je trouve que ça pourrait être intéressant, parce que ça permettrait encore plus de rendre le Marius connu par le grand public. Donc ça pourrait peut-être permettre, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les ficelles, mais d'améliorer les finances pour les personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et puis voilà, faire que ça fasse partie intégrale du film. Ouais, pour moi, c'est un autre costume du film, finalement.
Pourquoi pas ? Je trouve que ce serait bien, parce que ça fait partie vraiment de... De plus en plus, maintenant, quand même, on en parle. Ça permet quand même à beaucoup de personnes d'y avoir accès. Ouais, je trouve ça sympa.
Ah oui, ça serait vraiment génial qu'il y ait un César de l'audiodescription en même temps que les Césars du meilleur film, du meilleur décor, parce qu'en fait, l'audiodescription fait intégralement partie du film, donc elle devrait avoir son César, parce que d'ailleurs, il y a des réalisateurs qui parfois s'intéressent à l'audiodescription ou collaborent, etc. Et donc je pense qu'elle mériterait son César, tout comme les autres.
Ça me paraît évident qu'il faut qu'il prenne cette place-là. C'est lui reconnaître voilà, toute sa valeur. Enfin, je le redis, c'est une œuvre artistique en soi. C'est un vrai travail d'écriture, c'est un travail d'auteur. C'est un travail aussi d'interprète, de comédien. Donc ce travail-là, il doit être valorisé exactement au même niveau. Et c'est comme ça qu'on va permettre aux personnes non-voyantes vraiment de trouver une qualité de travail sur l'audiodescription en salle et puis de développer leur fréquentation des salles, ce qui est hyper important.
Vous êtes sur Radio Galère 88.4 et nous écoutions la deuxième partie de l'interview concernant le Marius de l'audiodescription avec Elisabeth, Géraldine, Marie, Anne-Lise et Océanie, 5 personnes qui ont fait partie du jury. Et nous allons jouer à nouveau avec la censure cette fois. Un bip de censure a couvert les paroles de cet extrait d'une chanson très connue d'Herbert Léonard, qui vient de nous quitter récemment. Connaissez-vous ces paroles ?
Sans en attendre rien, mais pour le plaisir, regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir.
Alors c'est un extrait de « Pour le plaisir » et les paroles que je vous demande de trouver, il faut choisir entre 3 possibilités. Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, un matin, l'air de rien, lui sourire, ou bien en passant simplement lui sourire, ou bien encore, en rêvant tendrement, lui sourire. eh bien, vous aurez peut-être trouvé chez vous, mais on va prendre le temps d'une pause avant de donner la réponse. De voyage dans cette chanson de Christine and the Queen qui interprète à sa façon une chanson des années 70 que vous avez peut-être reconnue, Photo Souvenir de William Scheller. C'était en 1975 la version originale. Pour une fois, c'est une reprise qui vaut la peine parce que justement, elle ne fait pas que reprendre. Elle interprète de manière très personnelle. Et voilà la réponse à notre jeu.
Sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant simplement lui sourire.
Il s'agissait donc de trouver les paroles en passant simplement lui sourire. C'était donc la réponse B. Revenons une dernière fois au Marius de l'audiodescription avec notre interview. J'ai cette fois posé aux 5 jurés des questions un peu en dehors de ce prix, justement pour ouvrir un peu le débat. En dehors de votre participation au Marius de l'audiodescription, quel est votre rapport à l'audiodescription et au cinéma ?
Je regarde le plus possible, moi, des programmes en audiodescription quand je veux regarder quelque chose. D'abord, est-ce que c'est en AD ? Est-ce que c'est bon ? Voilà. Sauf au cinéma, parce que je veux pas avoir de casque. Et donc, quand je vais au cinéma, bah, c'est mon mari qui me fait... Alors, il me fait le minimum de l'audiodescription pour que je puisse comprendre, mais il ne me décrit pas absolument tout, et ça passe. Et après, quand le film passe et que je le regarde en audiodescription, bah, ok, j'ai davantage de renseignements et j'aime bien, mais la séance de cinéma avec mon mari était quand même très agréable et j'ai compris le film. Donc bon, je me débrouille avec le fait de pas vouloir de casque. J'ai jamais essayé, donc je peux pas avoir, mais j'ai l'impression que ça m'isolerait, j'ai pas envie.
Pendant très longtemps, j'écoutais, je regardais les films plus à la télé, enfin sur l'ordinateur à la maison, en audiodescription. Et là, maintenant, je retourne au cinéma parce que le petit cinéma de quartier dans lequel j'habite, là, dans le petit village, enfin, un village de 5000 habitants, où il y a une seule salle. Et donc, je vais voir les films en français qui ont l'audiodescription. Donc, ça nous permet de partager ça avec mon compagnon et d'être complètement autonome au film. Je trouve ça super. Hein. Mon compagnon est voyant. Il n'a pas de problème de vue, et par contre, il est habitué à l'audiodescription. Et à la maison, il regarde des films avec moi, avec l'audiodescription. Et même des fois, il dit, bah tiens, ça m'a permis de comprendre des choses que j'aurais peut-être pas compris vraiment s'il n'y avait pas eu, je l'aurais pas interprété de cette façon s'il n'y avait pas eu l'audiodescription.
Je vais très très peu au cinéma, pas vraiment l'occasion. Après, c'est vrai que je trouve que c'est très fort et c'est aussi ce qui me gêne. Après, à la maison, j'en regarde de temps en temps Là, vécu plus ce besoin, c'est, étant donné que j'ai un enfant de 9 ans, ça m'a manqué de ne pas avoir assez, par exemple, de dessins animés ou de choses, de documentaires pour les enfants, pour savoir ce que mon fils regardait. Sur certaines chaînes, il y en a, des dessins animés. Et ça, j'avoue que j'aime bien, pour le coup, regarder des dessins animés avec mon fils, pour pouvoir après en parler avec lui, comprendre ce qu'il a regardé, ce qu'il aime... Voilà, ça me permet aussi en tant que maman de pouvoir partager ça avec mon fils, ce qui est pour moi, pour le coup, vraiment essentiel.
Nous avons l'audiodescription dans un casque, notamment parce que je l'utilise au cinéma, mais aussi au théâtre ou à l'opéra. Si c'est un boîtier avec un casque, ben, c'est pas forcément évident parce qu'il faut maintenir le casque contre des appareils auditifs. Et du coup, il faut arriver à différencier le film ou la pièce de théâtre ou l'opéra de l'audiodescription. Donc, c'est pas forcément gênant, mais disons que ça demande beaucoup plus de concentration. Et si la musique ou le film est un peu plus fort que l'audiodescription, ben, on peut manquer des choses, quoi. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, depuis qu'il y a l'application Greta, où on peut télécharger l'audiodescription et l'avoir en salle, on peut avoir le son directement dans les appareils auditifs. Et du coup, c'est vrai que ça permet de mieux suivre le film, si tant est que l'audiodescription soit quand même assez forte pour qu'on puisse bien tout comprendre.
Moi, j'ai monté un podcast en janvier qui s'appelle « Handicap et cinéma ». Handicap, je l'ai créé en deux mots. Je fais un petit clin d'œil à la cape du chien d'assistance et du chien guide, puisque j'ai, en tant que famille d'accueil pour l'association Handi Chiens, je prééduque des chiens d'assistance pour les personnes handicapées, qui ne sont pas des chiens guides d'ailleurs, les gens les confondent souvent. Et j'avais envie justement de créer le lien entre ces trois univers qui se connaissent assez mal et qui pourtant ont plein de choses à partager. Et dans les salles de cinéma, des fois on s'équipe, on propose des séances en audiodescription ou des séances sous-titrées SME, et puis on n'a pas le public en face. Parce que les personnes qui ont un handicap, des fois, sont un petit peu dans l'idée que les salles ne sont pas équipées, que la communication n'est pas encore au point. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger en ce moment. Et j'ai eu envie de valoriser des expériences qui étaient positives. Alors, dans mon deuxième épisode, je parle d'audiodescription. Je rencontre un réalisateur qui a fait un documentaire sur une jeune fille qui est non-voyante et qui se voit remettre un chien guide à l'âge de 13 ans, une des plus jeunes maîtresses de chien guide en France. Et donc le réalisateur, par exemple, a réalisé qu'il fallait qu'il fasse une audiodescription sur son film, alors qu'au départ, il ne l'avait pas imaginé. Et donc il nous explique un petit peu qu'est-ce que ça a été, les difficultés, ça a été les enjeux de cette audiodescription. Et tout son cheminement, et ça lui a, enfin, pour lui, ça a été une expérience très très riche qui lui a permis même de réfléchir à des fictions audio, finalement, en disant on pourrait aussi transformer l'audiodescription en fiction audio où on réfléchit le film en amont en laissant une place à l'audiodescription. Et puis, il y a une autre expérience que j'ai vécue aussi qui n'était pas attendue. Je me suis rendue à une projection du film We Are People de Michael Jeremias. De Philippe Fontana, mais raconté par Michael Jeremias, qui est un sportif de tennis handisport. Et en fait, au moment de la projection, j'étais accompagnée d'un copain qui est complètement non-voyant. Et l'audio description n'était pas disponible. Et le film se passe beaucoup aux États-Unis, c'est un documentaire. Donc il y a beaucoup d'interviews de personnes anglophones et Julien ne parle pas l'anglais. Donc il a fallu trouver une solution parce que là sinon il allait passer une heure et demie vraiment à attendre que le temps passe parce qu'il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait comprendre. Je lui ai donc proposé, et grâce à l'expérience du Marius, ça m'a aidé énormément, je lui ai proposé de lui faire, enfin de m'improviser audio descriptrice en temps réel. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, donc je suis partie à lui décrire le film avec en jonglant entre les sous-titres qui étaient les sous-titres de l'anglais, donc il fallait que je lui lise, et puis il y avait les sous-titres SME qu'il ne fallait pas que je lui lise parce que là, il avait entendu le texte en français, donc il ne fallait pas que je sois redondante. Et en même temps, dans cet exercice, dans cette gymnastique là, de passer d'un sous-titre à l'autre, il fallait aussi que je trouve des éléments à lui décrire quand il y avait le temps et la place de le faire. Donc ça a été une expérience en temps réel qui m'a vraiment permis de comprendre tous les enjeux de l'audiodescription. Ça m'a fumé le cerveau, pour être honnête. Au bout d'une heure et demie, j'étais complètement épuisée, mais c'était riche. Et a priori, d'après Julien, mon ami qui était là, il m'a dit que je m'en étais pas mal sortie. Voilà.
Sur certaines plateformes, on peut trouver des films dont l'audiodescription est lue par une voix de synthèse. Vous avez déjà expérimenté cela ? L'IA, pour vous, c'est un danger pour l'audiodescription ou un allié ?
J'ai essayé 5 minutes sur Netflix, je crois, je sais plus laquelle, mais bon, c'est-à-dire qu'il y a des voix de synthèse qui sont quand même pas mal faites, hein, c'est pas... mais il n'y a pas de d'âme, on va dire, c'est un peu fort ce que je dis, mais il n'y a pas d'émotion. Alors, on ne veut pas que l'audiodescripteur ait beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est pas ça, mais on veut quand même qu'il montre neutre, mais pas absolument. La voix de synthèse, elle est trop, trop sobre, on va dire. Parce qu'après, il pourrait même faire écrire les audiodescriptions. Alors ça, ce serait horrible. À mon avis, ce serait horrible, mais bon, parce que c'est pareil. Pour écrire une audiodescription, il faut la patte d'un humain. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas saisir, à mon avis, l'émotion des personnages. Elle va pouvoir peut-être décrire comment ils sont habillés, mais après...
J'appréhende un petit peu. Il y a un côté quand même humain dans l'audiodescription qui est vachement important, de l'émotion de la personne qui va écrire le texte. L'intelligence artificielle, elle n'aura pas ce côté, ce côté humain, quoi.
J'ai jamais expérimenté. Après, moi, je suis pas forcément bien pour l'IA. Disons qu'après, tout dépend ce qu'on va en faire. Est-ce que c'est juste la prononciation qui est réalisée par une synthèse ou est-ce que c'est aussi l'écriture qui a été faite par une IA ? C'est compliqué. À la fois, on peut se dire peut-être que ça pourrait permettre d'accès à plus de choses. Et en même temps, dépersonnaliser ce travail, la diction, je suis vraiment partagée par rapport à l'IA. Mais pas que pour ça, hein, c'est de manière générale.
Moi, je pense que c'est vraiment un danger parce que l'intelligence artificielle n'aura pas l'émotion que peut procurer une vraie voix qui vous chuchote à l'oreille et où on est vraiment plongé dans le film. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que les comédiens qui audio-décrivent soient valorisés et que ça ne disparaisse pas.
Pour l'instant, j'ai jamais fait cette expérience. J'avoue que je cours pas derrière parce que je suis pas fan du tout des voix un peu métalliques et de l'IA d'une manière générale. C'est vrai que dans ma démarche même de consommatrice et d'éco-preneur, quand j'ai monté Planète Projet, qui est ma structure d'auto-entrepreneur, j'ai cherché en fait à changer toutes mes pratiques de consommation et à trouver des fournisseurs, alors que ce soit pour l'électricité, que ce soit pour le téléphone, etc., ou pour ma banque, où on ait de nouveau des personnes, des vraies personnes au téléphone, parce que tous ces systèmes un peu automatisés, etc., C'est vrai que ça peut être intéressant pour une partie du process, on va dire, mais moi, j'ai besoin de personnes, de vivants, de vibrations, voilà, d'émotions. Et un comédien, ben, ça transmet tout ça, même si dans l'audiodescription, sa place est vraiment en retrait. Il doit se faire oublier et pas prendre parti dans le film. Pour l'écriture, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je ne sais pas, j'ai jamais testé. Voilà. Mais en tout cas, pour la voix, j'avoue que je ne suis pas très... Je ne suis pas très tentée de faire l'expérience.
En conclusion, quel est le message que vous voudriez faire passer ?
S'il pouvait y avoir de plus en plus d'audio-descriptions et qu'elles soient de qualité, bah, ce serait, on aurait gagné. Et puis, bah, effectivement, si le Marius pouvait devenir un César, ce serait chouette.
Pour l'accessibilité des salles, je pense qu'il y a encore du travail à faire et qu'il faut vraiment mettre le paquet là-dessus pour qu'on puisse aller au cinéma n'importe où, n'importe quand, et qu'on puisse trouver un film où on ait une audio-description. On n'en est pas encore là. Donc voilà, avoir un César du Marius, ça pourrait peut-être vraiment faire bouger les lignes. Et puis moi, j'ai envie de remercier tous ces auteurs, toutes ces voix, toutes les gens qui travaillent autour de l'audio-description, qui font un travail colossal et qui nous permettent... à nous les non-voyants, de passer de super moments, quoi. Enfin, d'accéder au cinéma, c'est sans que personne vous chuchote à l'oreille et qu'on n'entende rien, et que ça dérange les voisins. Enfin voilà, il y a un côté vraiment important, quoi.
Ce que je regrette vraiment le plus, c'est par exemple quand un programme passe à la télé, qu'on sait que la version de décret existe, c'est pas forcément reproposé. Pareil pour le replay. Et pareil, je trouve ça dommage que ce ne soit pas inclus une description dans le cahier des charges, entre guillemets, de tout film. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse vraiment exploser le budget d'un film.
Moi, je trouve qu'en fait, ce serait vraiment bien qu'il y ait de plus en plus de films sur l'application Greta avec l'audiodescription, parce que l'audiodescription ne peut pas vraiment s'en passer. Ça nous permet vraiment de nous plonger dans le film, ça retranscrit les émotions du film, et je crois que c'est vraiment un métier à valoriser, autant ceux qui écrivent l'audiodescription que les collaborateurs déficients visuels, que les gens qui les disent, et aussi valoriser leurs conditions de travail, parce que c'est vraiment un bon métier, et pour nous c'est indispensable pour pouvoir aller au cinéma à l'heure actuelle.
Moi, je voudrais partager cet enthousiasme que j'ai eu à faire cette expérience, toutes les rencontres magnifiques que ça m'a permis et puis que ça va encore me permettre parce que c'est pas fini, enfin, c'est que le début de quelque chose, puisque là moi je vais rejoindre, enfin j'ai demandé à rejoindre le panel de l'audiodescription, donc j'attends leur réponse. J'ai eu à organiser cette année dans un écolieu près de Marseille des balades sous bandeau en pleine nature avec des personnes déficientes visuelles, dont mon ami Julien. Et j'ai des éducateurs à l'environnement qui sont venus me voir après cette séance et qui sont des jeunes adultes plutôt ouverts et qui m'ont... Enfin, ils ont été plusieurs à me dire « Ah, c'était vachement bien !» Et moi, c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui est aveugle. Et je me suis dit « Waouh, il y a du chemin à faire !» Voilà, il y a du chemin à faire. Et donc, moi, j'invite les auditeurs, les auditrices à faire ce chemin parce que c'est super, quoi. C'est vraiment, il y a une richesse, il y a des personnalités, il y a des attentes aussi. Voilà, je sens des gens qui sont très enthousiastes. Donc j'invite vraiment les auditeurs à faire l'expérience en salle aussi, de découvrir, d'installer peut-être Greta ou l'application Greta ou l'application Toivox selon les équipements des cinémas, et de venir avec leur casque et de regarder au moins un bout du film avec l'audiodescription. Et je trouve que c'est tout un tas d'expériences sensorielles qui sont nouvelles, qui sont riches, qui sont intéressantes et qui permettent plein de rencontres. Et avec un public qui est en face, je le sens bien, il y a une attente, il y a une envie de se rencontrer, il y a une envie d'échanger. Et c'est cette société-là, moi, qui me fait rêver, quoi.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à remercier Elisabeth, Géraldine, Anne-Lise, Océanie et Marie de leur participation à cette émission de Handicap Tribune d'aujourd'hui. Et si vous aussi, vous avez envie de participer, ben vous pouvez me contacter, peut-être pour me proposer un sujet, peut-être pour vous présenter vos activités, peut-être pour présenter un projet, ou un coup de gueule, ou un coup de cœur. Voilà, c'est pas difficile, il suffit de nous contacter au 06 81 13 24 68, 06 81 13 24 68, ou sur notre mail contact@laluciole-association.fr et sur notre site qui porte le même nom, laluciole-association.fr, il y a aussi un formulaire de contact. Et nous sommes toujours sur Radio Galère dans Handicap Tribune, Radio Galère qui s'écoute aussi sur le net, www.radiogalère.org et aussi en DAB+, sur la radio numérique. On passe à une nouvelle pause, une conclusion en fanfare, même si ce film n'a pas eu le Marius de l'audiodescription, avec Michel Legrand, trombone, guitare et compagnie.
Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. La guitare est une fille qui traîne sa drôle de vie dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard qui bringue avec les noirs et dort avec Mozart. Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien 30 ou 80 qui s'amusent bien tous les soirs. Avec tous leurs copains, leurs cousins germains, ils s'entendent mieux que tous les larrons en foire. Le banjo est un bon gros caduque au boulot. Et ça lui donne chaud. Le tuba fait ce qu'il peut. Il swing de son mieux, mais ça l'essouffle un peu. Le violon est si léger que d'un seul coup d'archet, il se met à voler. L'orgue est encore le plus sage. Depuis son plus jeune âge, il pense au mariage.
Mes amis, une belle famille, c'est une belle famille, croyez-moi. Et que Monsieur Gershwin tourne la machine, que Marnet turbine, et ça les contamine.
Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Pas de badap, going, going, go, going, pas de potériado. Et la guitare, la flûte et le piano, le cor et le banjo. Le trombone et la guitare, le sax et la batterie, et toute la compagnie.
Quelques actualités et agendas à présent. avec pour commencer la présentation du portail de l'audiodescription. C'est le ministère de la Culture qui a annoncé cela, justement lors de la cérémonie de remise du Marius. Cette plateforme d'information sur l'audiodescription offre également un catalogue de films audiodécrits et des liens directs de visionnage pour certains films. On peut la trouver, cette plateforme, sur audiodescription.beta.gouv.fr. Audiodescription au singulier, .beta.gouv.fr. Si vous avez des retours, ben vous pouvez nous les communiquer parce que moi, je n'ai pas encore essayé. J'ai juste regardé la page d'accueil, mais je n'ai pas cherché à savoir comment on pouvait accéder au catalogue et comment on pouvait regarder certains films. Donc voilà, si vous avez des expériences, vous pouvez communiquer. Du 24 au 29 mars à Marseille, c'est le festival MCM, Musique Cinéma Marseille, qui a une programmation très très riche, des conférences, des films, des débats, des concerts, enfin beaucoup de choses. Ça se passe en grande partie au cinéma Artplex sur la Canebière à Marseille. Et il y a notamment plusieurs films qui sont programmés en audiodescription. Vous pouvez en savoir davantage en allant sur le site de la Luciole, www.laluciole-association.fr. Le 27 mars, la Luciole organise par ailleurs, en coopération avec MCM, un flip-flap battle audiodescription en salle 1 de l'Arplex à partir de 13h et jusqu'à 15h45. Alors d'abord, il y aura donc ce jeu flip-flap battle audiodescription qui réunit deux groupes de 6 joueurs qui vont se confronter à un extrait de film pour l'audio décrire. Et ensuite, donc, il y aura une restitution publique de ce travail d'audiodescription. Enfin, ce n'est pas un travail, c'est plutôt un jeu d'équipe. Et donc, il peut y avoir des auditeurs libres pour observer comment ça se passe dans la mesure des places disponibles. Et en tout cas, à 15h, il y a la restitution publique qui permettra de départager les deux audiodescriptions qui auront été produites. C'est un jury à l'applaudimètre, donc s'il y a du monde, c'est très bien, et s'il y a des non-voyants, c'est encore mieux. Le 3 avril, j'ai été invitée à aller au festival Lecture à voix haute, qui se tient au lycée Dumont-d'Urville à Toulon. J'y proposerai des extraits de contes de Provence de Paul Arène, enfin trois contes en fait. Ça se fera avec les yeux bandés pour les étudiants, donc lecture dans le noir. Le 4 avril, la Luciole participe à la manifestation Différent comme tout le monde, qui est une semaine de sensibilisation des élèves de 5e. Ça se passe à l'hôtel de région à Marseille. Donc là, on proposera vraisemblablement des petits jeux à faire sous bandeau, des jeux qui mettent en évidence le toucher, bien entendu. On pourrait faire d'autres choses, mais c'est un peu plus compliqué à installer, des jeux autour du goût ou de l'écoute, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'on va se contenter de jeux sur le toucher et puis éventuellement peut-être d'écrire les prénoms des participants en braille si on en a le temps. Parce que le petit problème de cette manifestation différente comme tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves et donc qu'on passe très peu de temps en fait avec chacun des groupes. C'est assez difficile de faire des choses de manière approfondie. Mais bon, j'espère quand même qu'il en reste quelque chose de ces sensibilisations. Et le 13 avril, la Luciole sera au cinéma Le Gyptis, notre fidèle partenaire, pour un nouveau flip-flap battle audiodescription. Et là, par contre, le groupe n'est pas constitué, comme c'était le cas pour le flip-flap au festival MCM. Et donc, si vous voulez vous inscrire pour participer au jeu, on a donc 12 personnes à trouver. Le Gyptis, bien sûr, va communiquer de son côté, mais nous aussi. Et donc, du coup, si ça vous intéresse, que vous êtes sur Marseille à ce moment-là et que vous avez envie de participer, eh bien, vous pouvez me contacter au 06 81 13 24 68. 06 81 13 24 68 et je vous expliquerai tous les détails. Alors donc, parmi les 12 joueurs, on a aussi besoin de deux maîtres de jeu. Et ces maîtres de jeu, ils sont soit non-voyants, soit malvoyants, parce que leur rôle, c'est d'être les oreilles du groupe, les grandes oreilles, comme dit Pilar. Et le rôle du maître de jeu, c'est de guider son équipe pour faire la meilleure audiodescription possible. Handicap Tribune, c'est maintenant presque terminé, mais on se quitte avec une dernière pause, qui est encore un clin d'œil au cinéma, puisque il y avait récemment sur les écrans, peut-être qu'il y a encore d'ailleurs un biopic sur Bob Dylan, qui s'appelle « Un parfait inconnu ». Et moi, je vous propose ici une chanson de Bob Dylan, mais pas chantée par Dylan. « Men gave names to all the animals », chantée par Maria Marchesini, avec Richard Bona et Bert Vandenbrink. Au revoir, au mois prochain, et cette fois, ce sera du direct.
To all the animals in the beginning, man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal that likes to growl, big furry paws that he liked to howl. Great big fairy back and fairy hair. Oh, I think I call it a bear. Ooh, man gave names to all the animals in the beginning, man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. Saw an animal up on a hill, chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. Oh, thing I call it a cow. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Gave names to all the animals in the beginning, a long time ago. He saw an animal that liked to snort, horns on his head, and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, say I call it a bull. Names to all the animals in the beginning, man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal leaving a muddy trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. Ooh, think I call it a pig. Animal that he did meet had wool on his back and hooves on his feet, eating grass on a mountainside so steep. Ooh, thing I call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning.
Men gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass slithering his way through the grass. Saw him disappear by a tree near a lake.
La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Thank you.